On a un héritage qui est en fait infini, parce que ce sont des arborescences de souvenirs qui ne sont pas les mêmes chez chacun, parce que les places ne sont pas les mêmes.
Et l'Église n'apporte pas des choses d'ailleurs contradictoires, mais il y a un petit plus. Et alors là, sincèrement, on ne peut pas l'acheter dans une pharmacie.
Je suis entraînée par un ancien écuyer du cadre noir qui me dit toujours « Mais c'est le cheval qui doit briller, c'est pas toi. Toi, t'es là pour lui montrer ce que tu dois faire, mais ce que tu montres au juge, c'est ton cheval. »
On a lancé le Human Genome Project, on a fait le séquençage du génome humain. Une fois qu'on l'a fait, on s'est aperçu qu'on ne comprenait rien.
Et la question, c'est qu'est-ce que vous faites de votre existence? Vous pouvez rester assis à rien faire devant un écran.
Sais-tu perdre du temps avec tes grands-parents? Le pape François a martelé le besoin urgent de dialogue entre les générations lors de sa catéchèse du 2 mars dernier. Le Saint-Père déplore en effet l'excès de vitesse dans un monde moderne où les personnes âgées sont bien trop souvent mises de côté. Il a appelé à convertir l'urgence du temps de l'horloge pour saisir la beauté des rythmes de la vie. Et la beauté de chaque moment précieux passé avec ses petits-enfants. Alors que vous soyez apprenti grand-mère ou mamie chevronnée, comment mieux jouer son rôle de grand-mère ce matin avec ses petits-enfants? Avec ses petits-enfants, c'est plutôt l'émission ce matin que nous allons aborder avec mes deux invités, Marie-Ange Enquête de Sens. C'est parti. Et j'ai la joie de vous souhaiter pour commencer une bonne fête à toutes les deux.
Merci.
Bonne fête les deux grand-mères.
Merci.
Et bonne fête également à ma maman qui est grand-mère également de 22 petits-enfants. Petit mot de félicitations en particulier effectivement pour ma maman qui est grand-mère. Nicole Prieur, vous êtes philosophe, en plus d'être grand-mère, vous êtes hypnothérapeute, thérapeute d'enfants, d'adolescents et également d'adultes. Vous avez publié de nombreux ouvrages sur la famille dont Les trahisons nécessaires chez Robert Laffont. Vous avez donc 5 petits-enfants. Vous souhaitiez également nous parler, évoquer votre dernier
petit-fils,
ouvrage.
Petit-fils,
je vous disais qu'il y en avait un sur le feu que vous souhaitiez aborder. Je me suis complètement plantée, ce n'est pas grave. C'est déjà pas mal pour les trahisons nécessaires vous avez déjà évoquées dans notre émission qui est passionnante.
Tout à fait.
Eliette Joubert, bonjour Eliette.
Bonjour.
Vous qui êtes vice-présidente et responsable des ateliers de langage de l'école des grands-parents européens. Vous avez vous aussi 5 petits-enfants. L'école des grands-parents européens, ce qui veut dire qu'on ne naît pas... Alors aujourd'hui, nous occupons des grands-mères. On ne naît pas grand-mère, on le devient. Eliette, c'est ça?
Absolument.
C'est vrai?
Oui, on devient grand-mère dès qu'on a le bonheur, la joie d'accueillir ce premier petit-enfant.
Mais c'est pas naturel. Faut apprendre.
Ça ne s'apprend pas.
C'est pas évident.
Ça ne s'apprend pas, mais c'est très différent d'ailleurs. Toutes les personnes n'accueillent pas cet état de grand-mère de la même façon. On est bien placé à l'école des grands-parents pour le savoir. Vous savez, nous sommes autour du lien entre les générations. C'est quand même aussi notre priorité. Non, je trouve qu'on ne naît pas grand-mère. C'est vraiment quand on voit arriver ce premier petit enfant que il se passe quelque chose.
Le premier, il se passe quelque chose.
Premier, et puis après, bon, effectivement, mais moi, j'ai été grand-mère très jeune.
À quel âge?
J'ai été grand-mère, j'avais pas tout à fait 52 ans.
Wow. Mais
moi aussi.
Ah ouais. Toutes les deux, des jeunes grand-mères. Ça fait peur au début.
Mais si vous voulez, moi, ce qui est intéressant dans le rôle de grand-mère, en tout cas,
Nicole
à partir
Prieur,
de ma place aussi de thérapeute, si vous voulez, et même d'expérience autour de mes amis, c'est une étape dans la vie. Si vous voulez, c'est une joie immense, vraiment, de voir ce bébé, cet enfant de nos enfants.
C'est fou quand même.
Il se passe quelque chose de magnifique. Mais psychiquement, ce n'est pas si facile.
Parce que
déjà, on passe dans un autre registre au niveau temporaire.
On change de place.
Aussi bien dans le fil de la vie, si vous voulez. Ça nous renvoie quand même un peu plus à notre finitude, quand même. Et puis, on doit apprendre à vivre avec, à trouver notre place, à savoir la garder. Et quelquefois, savoir se taire.
Et donc ça, c'est pas simple.
Je dirais que c'est un des rôles de cette association des grands-parents, c'est de bien préciser quelle est la place et le rôle des grands-parents.
C'est ça.
Dans la famille, c'est très important de savoir se situer pour éviter...
Parlez bien dans votre micro, chère Eliette.
Tous les problèmes qu'il peut y avoir.
Voilà. Oui. Alors, le pape François, donc, apparemment, ça vous arrive. Je précise à nos auditeurs qu'il y a eu un presque, en tout cas, un cri de réjouissance de la part de nos deux invités quand j'ai évoqué effectivement cette petite catéchèse du pape consacrée. Alors, lui, aux grands-parents, il explique effectivement qu'une société stérile, sans futur, qui ne regarde pas l'horizon, mais se regarde elle-même, eh bien, les grands-parents peuvent justement permettre, au fond, de contacter nos racines, quelque chose qui relève de la transmission. Là, pour le coup, au niveau de l'histoire du passé de ces fameux grands-parents qui nous racontent aussi l'histoire, eh bien, d'une société, d'un pays, un autre. Le monde d'où l'on vient, au fond, Eliette et Nicole. Eliette, ça vous parle, ça?
Absolument. Oui, oui, tout à fait. Et c'est d'ailleurs la transmission, ce qui se passe avec nos petits-enfants.
Ouais.
C'est au fond, c'est par notre attitude dans la vie courante que c'est comme cela que nous faisons, que nous transmettons le maximum de choses à nos enfants. C'est par notre nous transmettons par notre façon de nous comporter,
c'est sûr,
dans la vie, dans la famille, avec eux. C'est plutôt ce témoignage qui compte pour eux. Et c'est ce que, quand on parle de transmission, on n'a jamais l'impression qu'on est en train de transmettre quelque chose.
Ah, c'est ça qui est intéressant.
On le transmet, si vous voulez, par notre façon d'être.
Voilà.
Parce que nous sommes. Nous transmettons ce que nous sommes. Nous transmettons quelque chose de notre vie, de notre personnalité, de notre passé, de notre histoire.
Ouais.
Ce qui, effectivement, constitue des repères et très importants pour nos petits-enfants.
Ouais.
Alors cette transmission, elle ne se fait pas de la même façon chez le tout petit lorsqu'il vient de naître, le bébé et des ados. Moi, j'ai des ados, j'ai des grands maintenant, je peux me rendre compte de ce qui s'est passé tout au long de cela.
Qu'est-ce qui s'est passé avec les bébés?
Avec les bébés, c'est merveilleux parce que c'est une transmission non verbale forcément, mais c'est une transmission qui se fait par le contact, par le sourire, par les caresses, par la tendresse que nous prodiguons pour cet enfant, et ce que nous lui faisons découvrir également, parce que moi j'ai des souvenirs absolument merveilleux de ce que je pense que j'ai transmis inconsciemment, parce que je pense qu'il y a la transmission inconsciente.
Bien sûr.
Et cette transmission inconsciente, moi j'ai eu la chance de pouvoir passer beaucoup de temps avec mes petits-enfants pendant les vacances à la campagne, et ce bonheur, j'ai leur ai beaucoup, je pense, appris très tôt, encore lorsqu'ils étaient bébés, à aimer, à apprécier, à découvrir la nature sans parler. Je me rappelle, je faisais le tour du jardin, des arbres, on respirait l'odeur du tilleul, des lauriers, on touchait les feuilles, celles qui étaient douces, les arbres, le tronc d'arbre.
Quel grand
air. Il y avait une espèce de moi, c'est un bonheur pour moi. Alors, je l'ai fait avec mes cinq petits-enfants. Et j'ai des petits-enfants qui, je vous assure, aujourd'hui, aiment la nature et ont un vrai bonheur. Donc quand je faisais ça, je vous assure que j'avais pas l'impression de transmettre quelque chose.
Ouais. C'est Nicole Prieur.
Non, c'est ça. Alors si vous voulez, moi ce que je trouve qui est exceptionnel dans la relation aux petits-enfants et dans cette transmission, évidemment on transmet sans avoir l'impression de transmettre.
Bien sûr.
On va transmettre des valeurs, on va transmettre notre rapport à la vie. Et c'est pour ça
rapport à la vie.
Je rejoins tout à fait ce que dit pape François, parce qu'effectivement, on va leur transmettre un rapport au temps. Le temps, c'est à la fois quelque chose qui passe, mais en même temps quelque chose qui nous inscrit dans une histoire, qui donc donne un sentiment de filiation, d'appartenance. C'est rudement important. Et finalement, c'est très rassurant parce qu'on témoigne aussi d'une autre époque. On témoigne et si vous voulez, on témoigne d'une autre époque. On témoigne de quelquefois quand je leur dis que j'avais des blouses dans mon école et qu'il y avait des écoles de filles et de garçons, ils me disent mais tu vivais à la préhistoire. C'était trop mignon. Et ils peuvent mesurer les progrès, ils peuvent mesurer. Et je pense que même dans notre époque là de guerre, etc., très 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 difficile, on témoigne qu'on peut se relever de quelque chose de très difficile. Dire effectivement très naturellement. Et, mais ce qui est exceptionnel dans cette relation, c'est qu'on transmet. Et on transmet et la relation est libre par rapport aux relations parents-parents.
Il n'y a pas l'autorité, c'est ça que vous voulez dire,
non,
qui est chez les parents.
Non, on n'attend pas de retour. On attend, et on ne les enferme pas dans des loyautés. Moi qui suis sensible à la question des loyautés, on n'attend pas, bien sûr, ni de gratitude et encore moins de loyauté. Ils ont, et le fait, vous le décriviez très bien, Liette, hein, le fait d'être heureux de leur présence nous remplit suffisamment. On n'attend pas d'eux qu'ils soient excellents à l'école et excellents. On n'a pas des projets incommensurables sur eux. Puisqu'on est, et du coup, c'est là où j'appelle une relation excessivement libre, et ils le sentent. Et du coup, c'est rassurant, parce que ça signifie finalement un accueil d'eux et un amour d'eux inconditionnel.
Vous le constatez toutes les deux.
Hein. Oui, ça, il n'y a pas de doute. Même quand ils sont casse-pieds, hein. Je leur dis, vous êtes casse-pieds, vous êtes là, c'est merveilleux. Oui.
On est dans une relation de plaisir et de tendresse avec eux, et ils le sentent. On a cette disponibilité, ce temps aussi que les parents n'ont pas.
Pourquoi est-ce qu'il insiste avec autant de force, le pape François, selon vous, sur cette perte de temps? Perte de temps fortifie la famille humaine et... Perdre du temps avec tes grands-parents, sais-tu perdre du temps à jouer avec tes enfants?
Alors, il s'adresse aux enfants, là. Hein, il s'adresse aux enfants quand il dit cela. Et effectivement, il s'adresse à la génération actuelle, plutôt des adolescents.
C'est juste.
Qui maintenant, quand même, on est dans une société de l'image, de l'audiovisuel, Internet, le numérique. Donc, les jeunes passent beaucoup plus de temps, à mon avis, et peut-être ne consacrent plus autant de temps qu'avant.
À la famille. Hein.
À écouter, à parler. Ouais. Je dois dire que pour moi, ce n'est pas mon cas, hein, parce que j'ai encore beaucoup, j'ai encore mes petits-enfants, les ados en particulier, je parle toujours beaucoup avec eux.
Il dit que c'est une maladie de la ville, hein, donc ça rejoint un peu ce que vous dites,
je pense que quand le pape dit ça, c'est quand même qu'il veut dire, je pense qu'aujourd'hui, les jeunes sont moins réceptifs, ont moins de temps. Pour passer de temps avec leurs grands-parents.
Et justement, vous parliez de notre disponibilité. Je pense que, alors là aussi, je constate que les grands-mères, peut-être les grands-parents, mais d'une manière générale, mais les grands-mères du 21e siècle sont effectivement très disponibles. Quand elles choisissent de s'occuper de leurs petits-enfants, elles y sont à 150%.
Et on l'a vu pendant le confinement, à quel point les grands-parents, en général, avaient été hyper précieux, quoi.
Oui,
franchement,
hyper précieux, parce que cette disponibilité, ce choix-là, et puis ce partage, on est avec eux, on est dans le plaisir, on est dans le loisir. Ouais. Alors vous parliez de nature, ils se moquent gentiment de moi, parce que c'est une façon aussi de me témoigner de leur affection. Hein. Ils ont toujours, je les amène pas mal aussi au musée, etc. Alors régulièrement, quand les parents disent « Ah ben vous allez aller chez mamie, etc. », ils disent « Ah oui, on va encore visiter des musées, mais ils adorent. » Mais ils savent qu'après le musée, il y aura sûrement un McDo ou quelque chose d'autre comme ça.
Ah, la carotte, évidemment. Exactement. On n'appelle pas les mouches avec du vinaigre. Oui. J'aimerais bien... Alors, je ne vais pas me faire l'avocat du diable, c'est un peu trop fort de dire ça. Mais tout de même, pour tout vous dire, en préparant l'émission, j'ai un petit peu sondé autour de moi. Il y a beaucoup de questions qui vous sont posées, mesdames, aujourd'hui. Une jeune grand-mère qui nous dit que c'est pas évident parce qu'avec ses belles-filles, elle a eu que des garçons. Et avec ses belles-filles, eh bien, il y a conflit de façon de voir l'éducation, de voir les choses. Et
c'est clair.
Comment on fait en vacances? Répondez-lui.
Alors, c'est vrai, d'abord, comment faire lorsqu'il y a des conflits? Je vais quand même vous dire que l'école des grands-parents européens
existe.
Hein, et qu'il y a une ligne d'écoute très importante, c'est « Allô, grands-parents », 01 45 44 34 93,
on mettra ça sur le site,
que vous retirez, bien sûr, et qui est là, justement, qui a une écoute bienveillante pour, justement, toutes ces personnes qui ont un petit peu en difficulté dans leur relation entre les grands-parents et les belles-filles.
C'est pas simple, tous les jours, forcément.
C'est
quoi,
pas simple, c'est évident. Nous, on a vraiment ça très souvent. Donc voilà.
Vous avez un exemple à nous donner, par exemple, les caprices, typiquement, ça fait partie des choses. Même Nicole Prière pourra témoigner dans son cabinet aussi.
Oui.
Vous avez un exemple en tête qui revient assez souvent dans vos échanges? ou pas, Eliette.
Comment gérer
Le conflit typique, c'est quoi? C'est autour, par exemple,
C'est autour sieste, de... parfois, les parents sont très exigeants quand ils...
pour les rythmes.
Pour beaucoup de choses, ouais. Avec leur, oui. leur
pas donner de bonbons, par exemple, et les grands-parents.
Oui, voilà, ou bien ils trouvent les parents, les grands-parents, parfois, peut-être un peu trop anxieux, un peu trop... voilà. Moi, je ne suis pas une spécialiste de l'écoute, mais il y a, si vous voulez, à l'école des grands-parents, des gens qui sont vraiment, vraiment formés pour ça et qui, c'est une écoute anonyme, confidentielle, et c'est assuré par des professionnels de la famille, des psychologues, des conseillères conjugales, des juristes, des médiatrices. Donc, si vous voulez, qui peuvent répondre à ces cas. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup d'exemples très, très, très simples, je pense, que Nicole devait en avoir.
Effectivement, oui, tout à fait. Alors, si vous voulez, il y a plusieurs degrés, même. J'ai envie de dire, effectivement, il y a d'abord les oppositions, les oppositions et les positions différentes éducatives. Et il y a aussi, encore une fois, moi qui suis sensible à la question de loyauté, ce qui n'est pas facile, c'est effectivement quelquefois les relations entre les grands-parents aussi, les grands-parents paternels et les grands-parents maternels. Comment finalement, et du coup, ce sont les parents eux-mêmes qui doivent un petit peu faire le lien. Et quelquefois, si vous voulez, des grands-mères peuvent avoir quelquefois une influence sur l'autre grand-mère de la part des enfants. Chez mamie, on ne fait pas comme ça. Je veux dire, si vous voulez, et donc les enfants peuvent être dans une position où ils peuvent attiser, si vous voulez, des conflits latents, etc. Donc, c'est vrai que les relations grands-parents, petits-enfants sont merveilleuses, mais elles ne sont pas simples parce qu'il peut y avoir donc des conflits entre parents et grands-parents déjà au niveau éducatif. Il peut y avoir des prises de position et des conflits un petit peu de loyauté entre les différentes positions de grands-parents, par exemple par rapport à l'argent aussi. Chez les grands-parents, les uns, on va avoir des cadeaux magnifiques et incroyables, et chez les deux, il y aura une autre valeur. Voilà. Ouais. Et donc, du coup, les enfants au milieu ne savent pas très bien. Non. Et surtout, moi, ce que j'entends de plus en plus, sont effectivement des conflits qui vont jusqu'à l'impossibilité pour les grands-parents de voir leurs petits-enfants. C'est terrible. J'ai beaucoup de grands-mères. De grand-père aussi. Et là, si vous voulez, ce que je mesure, c'est effectivement à ce moment-là, toutes les souffrances des jeunes parents, finalement, liées à leur enfance, va se rejouer sur le plan de leurs propres enfants. Et finalement, ils vont régler leur compte d'enfant à travers cette relation. Ouais. Et ils vont considérer que les parents sont toxiques. Et la plupart du temps, ils ne le sont pas tant que ça. Mais parce qu'effectivement, il y a quelque chose... Il y a une peur qui est réactivée. Il y a une souffrance qui... Et ça, c'est vraiment terrible parce qu'on arrive à des dialogues impossibles, si vous voulez. Et du coup, ceux qui en font les frais, effectivement, ce sont les petits-enfants, parce que du coup, ils sont privés de grands-parents. C'est douloureux pour les parents, pour les grands-parents, mais c'est terrible pour les petits-enfants aussi, parce qu'ils sont, comme vous disiez, ils sont coupés d'une forme, d'une partie de leurs racines, quoi. Oui. Donc, c'est une très belle aventure, avec beaucoup de difficultés.
Et là, c'est vraiment, le rôle, c'est vraiment la spécificité de Allo Grands-Parents, notre association, l'école des grands-parents. Et je peux vous dire qu'on a beaucoup, beaucoup d'appels de ces grands-parents-là, et des parents aussi d'ailleurs, mais des grands-parents qui ont ces problèmes.
Donc, on va voir justement comment tenter de sortir de ces espèces de marasmes, d'incompréhension, souvent de problèmes de manque de communication, sans doute aussi. J'imagine. Juste après cette petite page en couleur, si vous le permettez, mesdames, à tout de suite.
Orient Extrême. Chaque semaine, retrouvez l'actualité asiatique sur Radio Notre-Dame. Orient Extrême, chaque vendredi à 15h, présenté par les missions étrangères de Paris. Orient Extrême, c'est aussi le dimanche à 20h30.
Diapason, le magazine de la musique classique, vient de paraître. Au sommaire de Diapason en mars, Tchaïkovski, sa vie, son œuvre, les disques essentiels, Emmanuel Haïm, rencontre avec une chef heureuse, Israël en Égypte de Handel, un miracle choral, sans oublier les Diapasons d'or attribués aux plus beaux albums du mois. Diapason, c'est aussi un CD événement joint à votre magazine, les plus célèbres chefs-d'œuvre de Grieg dans des interprétations légendaires. Avec Diapason, osez être classique.
Radio Notre-Dame, les auditeurs ont la parole.
Sans doute parce qu'on est plusieurs à avoir besoin de cheminer vers le Christ et que pour moi, Radio Notre-Dame, c'est un des moyens réels de cheminer vers le Christ. En tout cas, c'est une façon de s'enrichir les uns des autres, d'écouter la parole d'autres pour réfléchir soi-même. Et ce cadeau-là, il est précieux. Donc pouvoir y participer financièrement, c'est aussi envoyer le message du Christ le plus loin possible.
Pour soutenir Radio Notre-Dame, envoyez vos dons au 6 boulevard Edgar Quinet, Paris 14e ou rendez-vous sur www.radionotredame.com. Merci.
En quête de sens, Marie-Ange de Montesquieu.
Et nous célébrons les grands-mères ce matin en compagnie de nos deux invités. Bonne fête à toutes les grands-mères qui nous écoutaient sur Radio Notre-Dame dans Enquête de sens précisément ce matin. Comment mieux jouer son rôle de grand-mère avec ses petits-enfants? C'est la question que je pose à mes deux invités qui sont toutes les deux grands-mères de 5 petits-enfants chacune. Nicole Prieur, philosophe, hypnothérapeute, thérapeute d'enfants, d'adolescents mais aussi d'adultes, qui a publié de nombreux ouvrages sur la famille, dont le petit dernier Les trahisons nécessaires chez Robert Laffont. Et puis Eliette Joubert, vice-présidente et responsable des ateliers de langage de l'EGPE, l'école des grands-parents européens. Mesdames, effectivement, beaucoup de questions autour de cette transmission. La transmission, j'aurais bien aimé qu'on commence par cela, mais bon, le pape François a parlé, donc j'ai préféré que vous rebondissiez l'une et l'autre sur son intervention il y a quelques jours. La grand-mère et le grand-père, quand même, pour que les grands-parents qui nous écoutent à deux puissent un petit peu s'y retrouver. Nicole Prieur, grosso modo, qu'est-ce qu'apporte le grand-père? Qu'est-ce qu'apporte la grand-mère?
Alors écoutez, en répondant, je m'aperçois que quand même c'est assez, comme on dit maintenant, assez genré, c'est-à-dire que effectivement c'est assez stéréotypé finalement, parce que les grands-pères ont tendance à être dans le faire, à être quand même dans le bricolage, dans le jardinage, et effectivement dans des actes de transmission, mais de choses très pratico-pratiques. Et les grands-mères, effectivement, comme disait Eliette, on les ouvre un petit peu sur la découverte de la nature, sur la sensorialité, sur le temps qui passe, la culture, comme on disait. Et on est un peu, moi je sais que aussi les grands-mères,
l'histoire familiale aussi, elles sont guérantes.
L'histoire familiale, ils adorent nous poser des questions sur les parents, par exemple.
Comment c'était quand tu étais petite?
Quand ils étaient petits, non, mais même sur leurs propres parents. On raconte des anecdotes croustillantes sur leurs propres parents et ils adorent parce qu'ils découvrent leurs parents et ils s'aperçoivent que leurs parents ont pu faire des bêtises aussi. Ils ont pu faire.
Tu sais, ta maman, quand elle était petite.
On dit pas de mal, alors ça, c'est certain.
Il faut faire attention. Hein.
Non, il faut faire attention, on en parlera sûrement. Oui. Mais on donne un. Que leurs parents n'étaient pas aussi sévères, peut-être, aussi sérieux qu'ils ont pu l'être. Et du coup, ça les amuse. Donc, effectivement, le grand-père va plus être dans le faire. Mais moi, ce que je constate, je ne sais pas si vous le constatez, mais j'ai un plaisir fou à voir que les grands-pères, surtout de notre génération, qui n'étaient pas présents en tant que pères, se rattrapent et sont excessivement disponibles et ils adorent la relation à leurs petits-enfants et ils découvrent.
Parce qu'il y a cette gratuité que vous avez évoquée tout à l'heure, Nicole Prieur?
Je pense. Et puis parce que justement, et les petits-enfants, on n'en parle pas là, mais ils sont très demandeurs de cette relation. Ils sont très... nous, on les accueille, mais eux, ils nous accueillent aussi à bras ouverts. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, ma petite fille, 18 ans, est la seule qui me suive sur Instagram. Tout le monde se moque de moi dans la famille. Et elle me dit, mamie, parce qu'ils me disent, tu veux faire Jones? et elle me dit, mais non, mamie, continue. Je veux dire, aussi, il y a donc dans le lien, il y a un lien qui est permanent avec eux. Et si je peux aussi dire un témoignage finalement de mon travail de thérapeute, je me suis aperçue dans les thérapies d'adultes à quel point ils évoquaient la figure souvent de grand-mère, peut-être un peu plus que de grand-père, puisque la génération précédente était moins présente, les grands-pères, mais de grand-mère comme personne ressource. Heureusement que j'avais ma grand-mère dans cette dans cette période difficile où je ne sais quoi, où ma mère m'acceptait pas comme j'étais, etc. Enfin, peu importe. Et les grands-mères, cette présence rassurante. Et du coup, c'est ça qui est important dans le rapport au temps. Et je reviens au pape François, c'est que nous sommes un continuum. Nous sommes une permanence. On est un point de repère parce que dans le temps, on est là, on est une stabilité. Et du coup, psychiquement, c'est extrêmement rassurant.
Vous savez ce qu'il dit, Pape François, il dit, pour rebondir sur ce que vous dites, chacun s'accroche à son petit morceau, flottant sur les flux de la ville marchande, où les rythmes lents sont des pertes et la vitesse de l'argent.
Ah oui, ah oui, c'est ça.
C'est ça. C'est ça. Donc sa réponse, c'est un antidote, au fond, à cette espèce de truc où on ne réfléchit plus, pardon pour truc, cette espèce de système dans lequel on ne réfléchit plus. J'ai envie d'aller voir mes grands-parents. Eliette, hein, vous êtes d'accord pour vous abonder dans ce sens-là, justement, au niveau de la transmission ?
Bien sûr, oui, c'est une transmission qui est quelque chose pour pour nos petits-enfants, oui, ouais. Je crois, qui les sécurise, qui les rassure aussi.
C'est vrai que parfois, les parents peuvent être pas aussi rassurant qu'à une certaine époque, peut-être. Je ne sais pas si c'est cliché de dire ça.
C'est pas du tout la même. Ouais. Je pense que les parents sont dans une relation d'éducation. Nous sommes plus effectivement dans une relation de transmission, de transmission de ce que nous portons en nous, de ce que nous sommes. Et moi, je pense d'ailleurs que je transmets inconsciemment chez mes petits-enfants ce que je le retrouve chez eux aujourd'hui, ouais. Je leur transmets le goût de la vie, une forme de confiance.
Vous êtes passé par, vous avez survécu au fond. Voilà, à toutes les épreuves, on a une histoire,
on a notre âge, on a été enfant comme eux, on a été jeune, on a été adulte et maintenant on est vieux. Hein, enfin bon,
bon
voilà.
Vieux,
enfin,
c'est,
ouais, voilà. Et on a cette continuité de la vie qui pour eux leur parle aussi. Et je pense que c'est effectivement quelque chose qu'on peut, on peut passer ça, on peut leur faire comprendre. Et ils aiment justement que, qu'on leur parle de ça. Donc moi, je pense qu'on leur transmet ça. Enfin, moi, j'insiste beaucoup sur le goût de la vie et aussi la confiance. Nos petits-enfants ont besoin d'avoir confiance. Confiance en eux, c'est sûr, mais confiance en la vie.
Bien sûr.
Quand on traverse des périodes comme nous traversons aujourd'hui avec la guerre, ils en parlent. Moi, j'ai des petits, j'ai des ados et on parle, ils ne peuvent pas ne pas en parler. Même des enfants très jeunes entendent.
Et comme les parents n'ont pas forcément le temps.
Et voient bien que leurs parents... Le visage, quand même, exprime des choses dans le même pour chez les tout petits. Donc, on peut même prononcer le mot guerre chez des enfants qui ont 3 ou 4 ans parce qu'ils en entendent parler. Mais le mot, par exemple, c'est plus parler de ce qui se passe autour, cette solidarité, tous ces gens qui se mobilisent pour aider ceux qui sont dans des situations difficiles. Donc, c'est déjà un tout petit peu transmettre une idée de la solidarité.
C'est un angle d'approche intéressant, ce que vous évoquez, Nicole Prière.
Et je pense, c'est pour dire qu'on peut parler de tout avec ses enfants. C'est... On en parle différemment selon les âges de nos enfants. Je vous parlais tout à l'heure de la communication non-verbale. Elle est différente, la transmission, chez le petit, chez le moyen, je veux dire, chez l'enfant d'âge primaire, et puis chez l'adolescent. Après, chez les adultes, moi j'ai bien sûr aussi des petits-enfants qui sont maintenant des adultes. Et là, c'est une conversation d'égal à égal, mais sauf avec leur vision du monde, de leur âge. C'est très important, ça les... d'avoir ça, parce que nous on parle avec notre affect, avec notre sensibilité, avec notre émotion, mais on est rassurant
parce que on parlait de référence autant tout à l'heure, mais on est rassurant parce que finalement on peut écouter leurs questionnements,
voilà,
on peut écouter leurs angoisses sans vaciller. C'est-à-dire que souvent, moi j'ai bien vu, encore une fois, avec les patients, les petits patients que je recevais en thérapie, quand c'est à 4, 5, 6 ans, ils posent normalement, c'est tout à fait normal de poser des questions sur la mort, sur la guerre, justement, sur plein de choses. Les parents ont peur de ces questions qui sont très profondes. Et j'avais fait un livre sur la philosophie et les enfants, parce qu'ils sont des vrais petits philosophes. Ils posent des questions et les parents ne savent pas répondre et ils ont peur de ne pas savoir répondre. Alors qu'avec des grands-parents, non seulement on peut répondre sur un mode presque philosophique, ils ont des réflexions extraordinaires.
Ouais.
Moi, quand j'ai parlé avec mes petits-enfants de la mort, il y en a un qui m'avait dit, mais tu sais, qu'est-ce qu'il m'avait dit ? Il m'avait dit, tu sais, c'est une espèce de rattrapage. Ce qu'on n'a pas réussi à faire dans la vie, après la mort, on peut le faire. Bon, ils ont des fois des réponses extraordinaires. Et on est prêt à, sans vaciller, on est prêt à accueillir effectivement leurs inquiétudes, leurs angoisses, leurs questionnements, leurs doutes, et on y reparle, on y répond quand même plutôt tranquillement en général.
Exactement. Enfin, je veux dire,
et cette tranquillité-là, c'est là où on leur donne c'est là où on leur transmet quelque chose. Oui. On les rassure, on leur dit, il y a des possibilités, il y a des opportunités, il y a toujours, tant qu'il y a la vie, tant qu'il y a la vie, on peut s'en sortir. Oui. Parce que notre corps, toute notre existence est là-dedans aussi.
Le prouve.
Ils savent qu'on a traversé des épreuves, ils savent qu'on a eu des ennuis. Ouais. Ils vont comme tout le monde. Et ils savent que on est là et qu'on est quand même, on est capable d'être présent et présent entièrement dans cette relation-là entre eux et moi. Ils sont présents aussi en face de moi. Quand ils nous parlent, je sais que c'est pas seulement parce que je suis psy, mais quelquefois j'ai des enfants, des petits enfants qui sont voisins, ils toquent et ils disent mamie, je suis triste. Voilà, et ils viennent. Et je pense que je serais pas psy, c'est pareil.
J'espère que justement que toutes les grand-mères qui nous écoutent peuvent au moins apprendre de cela et puis le faire tout simplement. Ouais. J'aimerais bien qu'on parle des difficultés si ça vous ennuie pas l'une et l'autre quand même parce que il y a beaucoup de questions autour de cela qui ont été posées avant l'émission. Alors une nouvelle étape, devenir grand-mère est parfois un cap douloureux pour certaines femmes. Voir son enfant, on en a un peu parlé au début de l'émission. Devenir parent peut être déstabilisant. J'aimerais bien qu'on parle effectivement des grands-parents. Vous en parliez, Eliette, des coups de fil que vous avez de ce côté-là, des grands-parents. Qui surtout des grand-mères souvent qui disent oh là là des grands-pères aussi ce que mes petits-enfants sont mal élevés.
Oui, bien sûr, ça revient souvent. Je crois que c'est quand nous avons nos petits-enfants, et c'est une chance de les avoir avec nous, de pouvoir passer des vacances avec eux, des moments avec eux. Et moi, j'adore les avoir sans les parents. Hein. Je crois que je ne suis pas la seule, d'ailleurs.
Ah, ça, c'est clair.
Alors, c'est intéressant, ça. Oui. Il vaut mieux les avoir sans les parents.
Mais ça, c'est vrai que c'est plus facile. C'est plus facile parce que là, on a vraiment une relation directe avec nos petits-enfants. Oui. Je pense qu'effectivement, il est difficile d'avoir ce rôle autoritaire, de dire tenez-vous bien, etc. Oui. Je crois qu'il faut un peu oublier ça. On peut, quand on les a avec nous, transmettre des codes par justement l'exemple, la façon dont on se tient à table, la façon, mais ne pas dire,
ne pas insister,
c'est pas notre rôle, et il faut oublier ça. Je pense qu'il faut pas être dans le reproche non plus avec nos petits-enfants. Il faut les accueillir avec beaucoup d'indulgence, partager beaucoup de plaisir plutôt, et se dire que les parents, je crois qu'il y a toutes ces choses-là, parce qu'au fond, ne pas insister trop non plus sur les, je pense aux devoirs qu'on nous demande de faire pendant les vacances, etc. Moi, je le fais volontiers, surtout quand on me le demande facilement. Mais je pense que là encore, pas trop d'exigences. On n'est pas là pour sanctionner. On est là, au contraire, pour encourager nos enfants.
Vous n'êtes pas les parents d'eux, quoi.
On est là pour encourager les enfants, pour les aider, pour effectivement avoir une certaine exigence, mais une exigence qui n'est pas qui ne sanctionne pas. Il faut de la bienveillance, il faut de la douceur, de la tendresse. C'est ce qu'il faut. Et je pense que les parents souvent reprochent aux grands-parents d'être trop exigeants, d'être trop dans le reproche parce qu'ils font pas ça comme il faut. Je crois qu'il y a souvent ce sont des petits conflits de cet ordre-là.
Mais quand même, qui sont difficiles. Douloureux.
Oui, Nicole,
oui, tout à fait. Des conflits qui peuvent s'envenimer, qui peuvent encore une fois faire ressurgir chez les parents des inquiétudes et des souffrances d'avant et qui peuvent effectivement empoisonner la relation. Ouais, ouais. Ce qui est important, c'est effectivement, on n'a pas un rôle d'autorité à avoir, mais quand on a un rôle, quand la relation est plutôt bonne et plutôt facile, quand on arrive, nous, à être dans cette distance dont vous parlez, c'est-à-dire on ne va pas leur demander de finir leur assiette, je ne sais quoi, etc. On les laisse dormir le matin, surtout quand ils sont ados. Quand on est relativement souple, ce que je trouve, moi, ce qui émerge, en tous les cas, souvent, et j'ai des témoignages chez mes amis aussi, c'est que, naturellement, ce qu'ils ont appris chez leurs parents, les règles de vie viennent, moi, ils sont excessivement respectueux. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin d'avoir un rôle d'autorité pour qu'effectivement, ils me respectent. Et du coup, je dis aux parents, ce que vous leur apprenez à dire merci, à venir nous aider, etc. Chez nous, ils le vivent pas chez leurs parents.
Comme par hasard.
Mais chez nous, ils le vivent. Oui. Et par exemple, l'autre jour, j'avais un petit-fils aussi chez moi. Spontanément, il a pu faire des colères. Je sais quoi, être insupportable, tout ce que vous voulez, parce que je suis assez souple là-dessus, parce que des petits garçons, ils ont besoin. Ça a besoin de bouger, ça a besoin de désobéir un peu. Mais ce même petit garçon, quand il a vu une dame âgée dans la maison porter un paquet, il s'est précipité pour apporter le paquet.
Ouais, il est très bien ça veut dire que
ils savent, dans des certains contextes, effectivement, appliquer les règles que les parents ont du mal à leur inculquer, mais qui sont là quand même. Je ne sais pas si je suis claire.
Si, on n'a pas besoin
en tant que grand-mère. Ouais.
Moi, je voudrais dire, à la suite de Nicole, je suis tout à fait d'accord. Nos petits-enfants, quand ils sont avec nous, sont souvent vraiment super
adorables.
Bien. Mais ce qu'il faut vraiment faire, enfin, moi, je le conseille aux grands-parents, c'est que justement, il ne faut pas avoir peur de dire aux parents que leurs enfants sont super.
Ah oui.
Sans arrêt. Je crois que les parents, qui sont quand même toujours un peu inquiets.
Même quand c'est des monstres.
Mais les monstres, ça peut être gentil, les monstres, ça peut être drôle. Non, je pense que ça leur fait très
bien.
Important.
Ça leur fait du bien d'être à des endroits.
Les parents ont besoin aussi qu'on les rassure, qu'on les conforte, et que c'est pas facile d'élever les enfants aujourd'hui.
Et que du coup, les parents soient bienveillants aussi vis-à-vis de leurs parents, parents.
Qu'ils soient bienveillants, bien sûr.
Ah, t'as encore pris mauvaises habitudes chez ta grand-mère.
De temps en temps, de dire aux parents de nos petits-enfants que vraiment leurs enfants sont super, et que là, vraiment, ils font ça très bien. Non, je crois
c'est vrai.
Ouais, je crois que ça arrange quoi, les choses.
Et puis, Nicole, juste avant la musique.
Ce qui est intéressant, c'est effectivement que du coup, c'est ça qui est intéressant dans l'histoire familiale, c'est que les parents, finalement, redécouvrent leurs propres parents. Quand ça se passe bien, ils redécouvrent leurs propres parents. Ils découvrent, c'est-à-dire qu'effectivement, les parents dont ils ont souffert quand même, comme tous les gosses, quand ils étaient enfants, leurs parents sont beaucoup plus tendres.
Il ne faut pas qu'ils soient jaloux, il faut qu'ils comprennent que ça peut être super. Voilà.
Mais quelquefois, ils ont des réactions d'enfants. Mais ça peut se comprendre aussi, je veux dire,
au niveau des cadeaux.
Mais effectivement, ça transforme notre position quand elle est juste. Elle transforme effectivement les regards respectifs dans la famille.
Mamie Blue, ça vous dit,
Nicoletta. Oui.
On se retrouve juste après.
Radio Notre-Dame.
Aujourd'hui je te reviens et j'ai refait tout le chemin qui m'avait entraîné si loin, oh si loin. Tu n'es plus là pour me sourire, me réchauffer, me recueillir, et je n'ai plus qu'à repartir. Le chat et les chiens sont très vieux et ils viennent me dire adieu, adieu. Je ne reviendrai plus jamais dans
dans ce village que j'aimais, où tu reposes à tout jamais, désormais.
Nicoletta, Mamie Blue sur Radio Notre-Dame. Bonne fête toutes les grands-mères qui nous écoutaient ce matin. À l'occasion eh bien, de cette émission, nous en parlons des grands-mères. Comment mieux jouer son rôle de grand-mère avec ses petits-enfants. Nicole Prieur est avec nous ce matin, philosophe, hypnothérapeute, thérapeute d'enfants, adolescents et adultes, qui a publié beaucoup d'ouvrages sur toutes ces questions familiales, dont le dernier, Les trahisons nécessaires chez Robert Laffont, qui est grand-mère de 5 petits-enfants. Et puis Elliot Joubert, également grand-mère de 5 petits-enfants, vice-présidente et responsable des ateliers de langage de l'École des grands-parents européens. Nous en dirons un petit mot, justement, précisément, à la fin de cette émission. Nicole Prieur, il y a quand même beaucoup de petites problématiques qui peuvent devenir d'énormes problématiques. Mm-hmm. Entre les grands-mères qui n'ont pas très envie, en fait, de s'investir avec leur... Ça arrive, oui, Nicole. Ça
oui,
arrive.
Oui, ça arrive. Alors,
respectons-les, ces grands-mères.
C'est clair, ça va des grands-mères qui sont encore plutôt très jeunes, hein, quand ouais. on est grand-mère à 50, 55
ouais, c'est
ans.
C'est difficile aussi.
Et il faut aussi se resituer dans notre époque. Ce sont peut-être des femmes qui se sont séparées, qui refont une vie amoureuse, en fait, ou qui sont prises dans des carrières professionnelles. Il y a effectivement des femmes qui n'ont pas envie de s'investir et qui se culpabilisent. On n'a pas à se culpabiliser. Je veux dire, on peut avoir cette fibre grand-maternelle où on ne peut pas l'avoir, mais heureusement, on est dans une société où c'est relativement libre. On peut ne pas effectivement être contente d'aller faire des confitures avec ses petits-enfants. Et tant mieux. Et on leur transmet. Et je pense que ces femmes-là leur transmettent aussi d'une autre manière une forme de liberté. Et ça, je crois que c'est important de valoriser ce que l'on transmet, même si on n'est pas forcément présent.
On communique quand même ou pas dans ces cas-là ? On écrit ?
Tout est communication. Quand un petit enfant voit une grand-mère peut-être se réaliser dans son travail, peut-être qu'effectivement, il se dit, mais ça, c'est chouette aussi.
C'est mieux que de se forcer à inviter ses petits-enfants encore.
Mais en même temps, en parlant de culpabilité, alors moi, je vais faire mon expérience personnelle. Mes enfants ont connu une grand-mère qui était ma mère, effectivement complètement disponible à 150% dévouée à eux, prête à tout lâcher pour s'occuper d'eux. Moi, j'ai toujours continué à travailler, même si j'ai privilégié les mercredis pour mes petits-enfants, et j'étais tout le temps culpabilisée par le fait de ne pas pouvoir m'en occuper encore plus. Donc, je veux dire, les enfants aussi, en tant qu'enfants, viennent aussi titiller la culpabilité des grands-parents. Ah. Mais je résistais quand même.
Bravo, Nicole.
Parce que je prenais tellement de plaisir avec les petits-enfants quand ils étaient là, que ça compensait.
Et puis, il y en a qu'on préfère à d'autres aussi, Eliette. Alors, vous souhaitiez peut-être ajouter quelque chose, mais c'est vrai que ça fait partie aussi des petites problématiques. J'imagine que vous entendez un peu tous les jours qu'on aime bien recevoir tel ou tel petit-enfant, mais pas tel autre.
Ah bon,
chez soi. Ça peut arriver, ça.
Oui, ça
des
peut
préférences.
Arriver. Ça peut arriver. On peut très, ça peut arriver. Moi, je n'ai pas ce problème.
D'accord.
Mais
ça peut arriver.
Je peux difficilement en parler. En revanche, je peux enchaîner sur ce que vient de dire Nicole, en ce sens qu'il y a des grands-parents qui, effectivement, ne peuvent pas trop s'occuper de leurs petits-enfants ou parce qu'ils ont les liens ne fonctionnent pas bien au sein de la famille. Je dois dire que moi, je m'occupe plus particulièrement dans cette association de quelque chose qui s'appelle les ateliers de langage que j'ai créé il y a déjà maintenant plusieurs années. Et qui finalement permet à des grands-parents qui sont déjà bien investis d'ailleurs dans leur famille, cela au contraire n'empêche rien, puisque moi mes petits-enfants sont très fiers de ce que je fais en dehors d'eux et que j'ai cette activité d'aide et de solidarité et de soutien pour des enfants, auprès d'enfants dans les écoles. Les ateliers de langage sont des ateliers qui mettent en relation des grands-parents ou des, pas forcément d'ailleurs de cette génération là, des seniors, des grands-parents bénévoles qui vont dans les écoles pendant le temps scolaire avec l'agrément du rectorat pour aider des enfants qui ont des difficultés d'expression orale, qui ont souvent pas un vocabulaire un
qui remplace un peu quand on n'a pas de on n'a pas de grands-parents non plus. Alors, soit qu'ils sont pas disponibles.
On ne remplace pas les grands-parents, mais on vient apporter un on apporte un soutien linguistique, un soutien langagier là, pour les enfants, mais pas que. On est aussi pour ces enfants l'image de d'une grand-mère qui vient les voir, qui vient les aider régulièrement une fois par semaine. On fait des ateliers avec des petits groupe, avec bien sûr l'accord complet de l'équipe pédagogique. Mais cette action-là, si vous voulez, permet à des grands-parents qui s'occupent aussi bien sûr de leurs petits-enfants ou qui justement n'ont pas l'occasion de s'en occuper, de venir aider, apporter, être en relation avec de jeunes enfants. Et c'est quelque chose de très gratifiant pour les personnes qui le font,
Nicole,
les bénévoles, aussi pour les enfants qui reçoivent ce soutien et cette aide. Ça se passe dans les écoles d'une façon régulière. J'ai aujourd'hui 25 écoles dans Paris où nous intervenons.
Donc n'hésitez avec pas à vous cinquantaine. Nicole, vous êtes bienvenue, effectivement.
Oui, moi je voulais revenir aussi sur quelque chose qui se passe en famille et qui est aussi, je veux dire, c'est vrai, plus on avance dans l'émission, plus on voit que les grands-mères, pour être dans cette position juste dont on parlait tout à l'heure, qui équilibre finalement et maintient une bonne entente au sein des trois générations, doivent être très vigilantes. Et vous parliez tout à l'heure des préférences qu'on peut faire entre les petits-enfants.
Alors.
Et ça, c'est effectivement, c'est excessivement douloureux parce qu'on s'aperçoit que très inconsciemment, les préférences que des parents ont pu faire avec leurs propres enfants se glissent et se réorganisent autour des petits-enfants. C'est-à-dire que moi, je peux recevoir donc des parents qui voient que leurs grands-parents, des parents qui voient que leurs propres parents continuent à être très attentifs, par exemple, aux enfants de leurs frères, enfin, aux petits, à leurs neveux,
cousins, quoi, oui,
à leurs neveux, etc. Et ils le vivent encore une fois comme une réactualisation, mais ça ne m'étonne pas. Ils ont toujours préféré mon frère, ils ont toujours préféré ma sœur.
Archi courant, je pense qu'il n'y a pas une famille qui échappe.
Et ça, c'est violent. Je pense que justement, en tant que grand-mère, en tant que grand-mère, grand-parent, on doit être très très attentif. Et ça, les enfants, en tout cas, la génération donc enfants, nouveaux parents, nous le disent en général, et il faut l'entendre. Et si on arrive en tant que grand-mère à rééquilibrer, à se demander pourquoi je préfère tel enfant et tel petit-enfant de cet enfant-là, je pense que nous-mêmes, on grandit, parce que ça a du sens.
Il faut s'interroger là-dessus, pourquoi je préfère, par exemple. C'est ce que vous conseillez ce matin. Hein. D'accord.
Et du coup, s'interroger...
Est-ce que c'est son bon caractère? Est-ce que c'est quelque chose...
Qu'est-ce qui se passe? Et du coup, ça nous permet, nous, en général, en tant que grand-mère, et en général, s'il y a une préférence, c'est qu'inconsciemment, il se joue quelque chose. Et que si on s'interroge, et c'est une occasion de s'interroger, ça va peut-être dénouer ma propre relation avec mes parents ou mes autres frères et sœurs. S'interroger sur pourquoi j'ai une préférence, ça peut libérer quelque chose en moi et de mon histoire. Et il est temps quand on est grand-parent.
Je ne sais pas s'il s'agit vraiment de préférence, parce que certainement, ça existe, convaincue. Mais en même temps, je pense qu'on a avec nos petits-enfants, avec chacun de nos petits-enfants, une relation
particulière
et qui est différente d'un enfant à l'autre, même dans la même fratrie. Oui. On n'a pas forcément avec chacun des enfants.
Et puis on les a pas connus de la même façon. Il y a des grand-mères qui ont quasiment élevé des petits aussi.
Voilà,
hein,
on les a pas forcément autant les uns que les autres. Ils sont arrivés à un moment de notre vie où on était plus ou moins disponible. Hein. Moi, quand j'étais grand-mère, la première fois, je travaillais.
Énormément.
Je m'en suis énormément occupée quand même.
Oui,
mais
aussi.
Ça fait rien.
Quelle super grand-mère, vous êtes toutes les deux.
Et puis avec l'âge, et puis on n'est plus tout à fait la même grand-mère à 52 ans. Qu'à 70 ans. Hein. Donc, vous voyez, il y a tout ça qui change. La disponibilité n'est plus tout à fait la même, ou elle est différente. On fait des choses plus calmes. On travaille davantage. On est plus dans l'échange autour du livre. Moi, j'ai transmis à mes petits-enfants, alors ça, ils le disent tous, que je leur ai donné le goût de lire. Hein. C'est vraiment quelque chose que j'ai fait énormément. Je pense que Nicole a dû le faire aussi. On l'a tous fait. Mais je l'ai fait de telle façon qu'en tout cas, si je leur demande, ils me disent que effectivement, ils ont aimé apprendre. Je leur ai donné le goût d'apprendre. Ça, c'était aussi dans mes transmissions un peu liées à ma profession. Le goût d'apprendre et le goût de lire. Et c'est quelque chose qu'on partage plus ou moins avec chacun de nos petits-enfants.
Nicole, moi, je ris parce que je leur ai effectivement transmis le goût de lire, il n'y a pas de doute. Mais je leur ai transmis aussi l'envie d'écrire.
Tiens.
Et vous parliez de prochains livres, ils me tannent pour effectivement qu'on fasse tous un livre ensemble.
Voilà.
Tous les cousins, ils ont commencé à écrire, je leur ai dit, commencez par définir les personnages, par définir
un roman en plus, ça va être
Vous
attaquez un peu
chantier. Je ne sais pas si on y arrivera, mais je veux dire, mais ils ont envie, et ils me disent, parce qu'ils m'ont vu, mais ils m'ont vu écrire.
Voilà.
Et ce qu'il y a, c'est eux qui peuvent être turbulents, hein, encore une fois, des jumeaux, des garçons.
Ça les fait rêver d'une certaine façon.
Et ils savent être respectueux. Ils savent quand j'ai besoin de relire ou d'accéder à un texte. Mais alors, en même temps, alors c'est très adorable parce qu'ils savent être respectueux, mais ils ont besoin de se moquer gentiment de moi. Quand ils voient, quand il y a un article ou quand il y a quelque chose qui passe à la télévision ou quoi, et ils disent, c'était Nicole Prieur, avec un geste de dire... c'est trop mignon.
Le temps fiche, désolée, vraiment que ce soit...
Je voulais dire que pendant la période de confinement, j'ai écrit avec une de mes petites filles adolescentes qui avait 14 ans, une petite histoire à quatre mains, un petit nouvel à quatre mains en visio. Je vous dire que ça a été un vrai bonheur et c'était même très réussi. Donc c'est vraiment une écriture à quatre mains, enfin en visio pendant le confinement. Ça
fallait
nous a
faire en plus
pendant pratiquement tout le confinement.
Et ben voilà pour les relations de grande distance. Parfois, quand on vit loin de ses grands-parents, ce qui arrive certainement pour certains de nos auditeurs. Eh bien, c'est une bonne idée, une bonne initiative. Merci infiniment, Aliette, pour ce petit clin d'œil et cette suggestion. J'aimerais bien qu'on termine l'émission. Je suis désolée par ce sujet pas très douloureux, un peu douloureux, qui est le cas des parents, des familles avec des divorces.
Oui,
comment se positionner, Nicole, en tant que grand-parent, pardon,
et
que grand-mère.
Surtout, ne jamais. Alors, si déjà, il ne faut jamais faire de reproches auprès, enfin, de critiques de parents, que ce soit nos propres enfants ou nos beaux enfants. Déjà, ne jamais critiquer en temps habituel, mais auprès des enfants, mais pendant une période de divorce, rester effectivement le plus neutre possible.
Ouais.
Ne jamais attaquer l'autre parent, ne jamais prendre part pour notre propre enfant, parce qu'on a tendance à le faire.
Voir le positif.
Voir le positif, parce que sinon, il ne faut pas oublier qu'un enfant est issu d'une double histoire, d'une double
pour
filiation.
Respecter ça.
Et si on attaque l'autre filiation, on attaque une partie des enfants, enfin une partie de l'enfant, et finalement, on le met encore dans une forme de conflit de loyauté. On biaise tout. Donc, effectivement, et on est là pour garantir la stabilité de l'histoire. On est là pour leur dire...
stabilité de l'histoire. C'est très joli ce que vous venez de dire.
Et on est là pour leur dire que leur lien avec eux est indestructible. Quand je recevais des petits patients, je faisais un petit schéma et je leur disais qu'effectivement, le lien entre lui et chaque parent et chaque grand-parent, quoi qu'il arrive, est indestructible. Et ça, il pourra compter toujours là-dessus.
Peut-être que c'est ça sur lequel insiste le pape François.
Moi, je pense
qu'effectivement,
c'est une des choses les plus importantes, c'est de rester en bonne relation avec la famille, avec l'autre famille.
Surtout.
Quand les grands-parents des deux côtés peuvent rester proches.
Tout à fait.
Et
on
garder,
fait un effort.
On a effectivement, on fait un effort et on construit effectivement ce socle dont vous venez de parler, Nicole, qui est indispensable.
Et quand on veut vider son sac, on va voir les copains, on va voir un psy ou un prêtre.
Les copines, c'est déjà pas mal.
Voilà. Et les copines,
mais parce
les
que
copines
c'est prêtre. Là, si le socle des grands-parents
on y touche pas,
reste proche, là, on a une famille quand même qui peut se construire. Parce que peu importe, après, les parents vont divorcer.
Effort de carême intéressant d'ailleurs, pour les grands-parents qui nous écoutent et qui ont du mal, qui peinent à cela, et bien voilà, pourquoi pas faire
garder
cette démarche.
Si possible, le plus soudé possible pour les enfants, c'est essentiel.
Elle sait de quoi elle parle, Aliette, puisqu'elle dirige cette école des grands-parents européens,
et
ces ateliers de langage, et qu'on retrouve évidemment, alors grâce à notre page, la page de l'émission, et notre site internet, EGPE, voilà,
allô
sur Google, allô, école des grands-parents, allô grands-parents, grand-mère de 5 petits-enfants que vous êtes, merci infiniment, et puis Nicole Prieur. Et votre livre Les trahisons nécessaires, ça peut aider aussi pour améliorer le climat familial chez Robert Laffont. Merci infiniment à vous deux et bonne fête à tous. Comment vous faites appeler vous deux?
Mamie.
Oui,
moi deux mamies.
3 millions.
Bah, ma maman c'est Mamouchka.
Ah, c'est mignon.
C'est très joli aussi.
Et ben voilà, bonne fête à toutes.
Merci beaucoup à vous toutes.